RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Dans le sud de Madagascar, la situation est catastrophique. 200 000 personnes, dont 40 000 enfants, sont en situation d'insécurité alimentaire aggravée qui menace de se transformer en famine. Alors que plusieurs personnes sont déjà mortes, les Malgaches parlent de kéré. Kéré, un terme synonyme de grande faim. Dans certains endroits, il n'a pas plu depuis 7 mois. Et cette sécheresse s'ajoute à 2 années difficiles où la production agricole a fortement baissé. Le vent du sud aussi, qui fait des ravages. Il assèche, provoque l'érosion des sols, et puis déracine les plantes. Aujourd'hui, les paysans sont à peu près sûrs qu'ils ne récolteront rien cette saison. Ils sont contraints de vendre leurs biens pour acheter de la nourriture, alors que sur les marchés, les prix des denrées explosent. Voici le grand reportage de Jeanne Richard dans Lanous et Landjoui, deux régions les plus touchées par le kéré, cette faim qui ronge le sud malgache. Jeanne, que l'on retrouve pour en parler, bien évidemment, dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Moi, je m'appelle Charlot Mananzar. Si le kéré nous frappe, c'est qu'il n'y a plus de production agricole. On mange des feuilles de cactus. On enlève les épines, on les pèle, on les met dans un plat et on les mange. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des bœufs pour être obligés de manger des feuilles de cactus. Et pour les ébus, au moins, on cuit les feuilles avant de leur donner à manger. C'est seulement pour survivre qu'on mange ces feuilles de cactus. Si je dois mourir, il vaut mieux que ce soit demain plutôt qu'aujourd'hui.
Nous sommes dans Lanous, au sud de Madagascar. Cela fait 3 ans que la sécheresse frappe la région. Progressivement, les habitants ont épuisé leurs réserves. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien à manger. Ils parlent de kéré, un mot malgache qui signifie la faim. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, effectue ce jour-là une distribution de vivres dans le village de Berano en paiement de quelques travaux de débroussaillage et d'aménagement. C'est le programme Vivre contre travail. Une foule s'amasse autour du hangar. Les visages sont tendus.
Je m'appelle Thierry, je suis le socio-organisateur partenaire de PAM. Nous sommes en train de procéder à la distribution des vivres. Il y a environ 1000 personnes. Il faut qu'ils s'assoient tous. On les force à s'asseoir, donc comme ça, tout est calme. On fait l'appel et elles signent. Et on sort les vivres et les distribue.
Un peu à l'écart, Charlot Mananzar surveille attentivement la répartition du maïs. Il attend sa ration.
Là, on distribue des vivres du Programme alimentaire mondial. La dernière fois, on a eu 70 gobelets de riz par personne. Mais là, 2 sacs sont percés, donc on ne sait pas si on va pouvoir en avoir autant. C'est très important pour nous parce qu'on a faim. Je connais plusieurs personnes qui sont à l'hôpital en ce moment. On dit qu'ils ont mal au ventre parce qu'ils ont mangé du cactus. Ils ont la diarrhée. Mais heureusement, le maïs du PAM nous aide beaucoup. On peut diminuer notre consommation de cactus.
Direction la région voisine, Landjoui, également durement touchée par la sécheresse. Dans le village d'Imung, le centre de santé est censé couvrir 53 communes et 17 000 habitants. Mais en réalité, bien peu ont accès aux soins, comme en témoigne le docteur Markandjia Kutunanjin.
C'est inhabituel pour nous les médecins de voir autant d'enfants qui souffrent de malnutrition depuis 8 mois. Selon moi, c'était en janvier que c'était le pire.
Sur 150
enfants qui sont venus consulter, 35 sont en malnutrition aiguë sévère. Ce qui nous marque aussi, c'est que les enfants viennent tardivement au centre de santé. C'est parce que la plupart des parents passent leur temps à chercher de la nourriture au lieu d'amener leurs enfants à l'hôpital. Quand ils arrivent, ils sont très faibles. Les enfants sont très maigres, avec un gros ventre et des boutons sur la peau. Leurs cheveux sont secs et ils tombent. En outre, ce sont seulement les gens dans un périmètre de 5 km qui viennent nous consulter. On ne sait pas ce qui arrive à ceux qui sont plus loin. Des enfants sont morts ici, d'autres meurent chez eux. Ceux qui survivent ont des problèmes de développement physique et des retards mentaux. Des agents communautaires vont faire des consultations dans les coins éloignés. Ils voient les morts et nous racontent leur histoire. D'après eux, 12 enfants sont morts depuis les mois de novembre-décembre.
Je m'appelle Massi, je suis agent communautaire. Mon travail, c'est de surveiller le poids des enfants de 0 à 5 ans dans les villages isolés. Et on fait aussi la mensuration du périmètre du bras. La zone rouge, quand l'enfant est trop maigre, c'est 110 mm de tour de bras et 5-6 kilos pour un enfant de 1 an. Zoé, amène tes enfants ici. Maintenant, on va peser ton enfant. Voilà la balance. Déshabille-le.
Amizao. 5, 6, 7, 8, 9. 9 kilos.
Il pèse 9 kilos. Il y a un mois, il en pesait 8. Et le périmètre du bras est à 115 mm. Depuis qu'il a mangé la farine de maïs que j'ai ramenée du centre de santé, son poids a augmenté. Mais pour un enfant de 3 ans, le poids normal doit être autour de 15 kilos.
Je suis la maman de Rina, je m'appelle Zoé. J'ai eu peur pour la santé de mes enfants. Ils étaient faibles, ils n'avaient plus la force de s'asseoir, ils restaient allongés. Mais maintenant, je suis soulagée.
Massi, est-ce que cette situation est fréquente ?
J'ai remarqué que depuis 2012, le poids des enfants a diminué, depuis le début de la sécheresse. Il n'y a pas assez de pluie et les agriculteurs n'ont pas assez de récoltes. Et à chaque fois que je pèse les enfants, le poids diminue de plus en plus.
À proximité, Red Siraike, agriculteur de 42 ans, est occupé à sarcler son champ.
Si vous regardez bien, le sol est sec. On voit aussi que c'est sec parce que le maïs devient jaune et rouge. Ça fait un mois que j'ai planté, mais ça ne grandit pas. Les bonnes saisons, si la pluie tombe, je peux produire 8 à 10 charrettes. Mais si la pluie ne tombe pas, comme cette année, je peux à peine espérer un sac. Le vent est pire que tout. Il emporte la terre et les plantes. Ce qui tue les plantes, c'est la sécheresse et le vent. On n'a plus de force. On mange des herbes et des tubercules sauvages pour se donner un peu de force, pour travailler et cultiver. Beaucoup de gens sont déjà partis. Moi, j'ai failli partir, mais je tente ma chance avec ces cultures. J'ai la foi, la pluie va tomber. Mais si ça ne tombe pas, je partirai moi aussi. J'irai faire tireur de pousse-pousse en ville. Même s'il pleut maintenant, de toute manière, je n'ai plus de semences. J'ai planté tout ce qu'il me restait.
Au marché d'Ambou Naïf, à quelques kilomètres, les étals sont presque vides.
Salut.
Bonjour. Combien il coûte le riz ?
C'est 500 ariars le gobelet.
Donne-moi 2 gobelets.
Tuetsu est agricultrice. Elle non plus n'a rien récolté, mais plutôt que d'émigrer, elle tente de s'adapter.
Je m'appelle Tuetsu. Je fais 18 km à pied ou en charrette pour venir vendre mes marchandises ici. Normalement, je suis agricultrice, pas marchande. Mais comme je n'ai rien produit, j'ai dû m'improviser marchande. Ça fait 3 mois maintenant que je me suis mise à la vente. L'argent de la vente, je l'utilise pour acheter à manger à mes enfants. J'utilise l'argent pour acheter des semences aussi, car je n'en ai plus. Le prix des semences est très élevé à cause de la sécheresse. Ceux à qui il en reste les vendent très cher.
Juste à côté, un autre vendeur raconte comme il est difficile de se procurer des marchandises.
Moi, c'est Haro, je suis vendeur. Je vends du riz, du sucre, de l'huile, du café, du pétrole, du savon, tout. En ce moment, les prix ne sont pas stables. Ils fluctuent beaucoup, ça dépend de la disponibilité de la marchandise. Si la route est bonne, on peut être approvisionné. Ça aussi, ça joue sur les prix. Il y a quelque temps, les prix ont beaucoup augmenté car il n'y avait plus de production. Mais là, ça a baissé. C'est plus ou moins tolérable car il y a eu un arrivage de riz importé à Fort Dauphin il y a 2 semaines.
Sortie de la foule, une femme nous interpelle. Elle ne souhaite pas dire son nom.
En ce moment, on souffre. J'ai dû vendre mes marmites et mon bétail pour avoir un peu d'argent. Une fois, des étrangers sont venus nous donner des vivres, mais on a reçu seulement 4 gobelets par ménage, alors que j'ai 10 enfants. Je ne sais pas comment je vais survivre. Le kéré nous frappe depuis si longtemps. On a besoin d'aide. C'est ce qu'on attend des politiques, de l'aide pour l'eau et aussi pour la nourriture, car l'eau ne rassasie pas. On a entendu des rumeurs comme quoi le gouvernement devait aménager un château d'eau, mais ça c'était l'année dernière et jusqu'à présent, on n'a rien vu.
Moi je m'appelle Viandraza. Mais actuellement, je suis le chef de la région Androuy. Presque tous les 5 ans ou 10 ans, se passe toujours dans une situation critique et catastrophique comme ce qu'elle traverse actuellement. C'est la sécheresse totale dans toute la région entière. Pourquoi ça se passe comme ça? Franchement, il faut que je vous le dise, que ça fait déjà plus de 60 ans que cette région a plaidoyé, a demandé à tous les pouvoirs qui se sont succédés de donner de quoi aider cette population pour que cette sécheresse ne se répète plus. Mais jusqu'à présent, ça n'a rien donné. On a eu beau espérer que ça va arriver, mais le régime passe, le projet reste. Cette région reste une cimetière de projet.
Hadzora Koutounirin, vous êtes coordinateur des actions d'urgence de l'organisation non gouvernementale CARE International. Selon vous, pourquoi les politiques de développement n'aboutissent pas?
Malgré la situation actuelle, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a beaucoup de potentialités de ressources dans le sud. À Béar, par exemple, dans le district d'Ambochar, il y a un barrage qui peut irriguer 2200 hectares. Et actuellement, c'est juste exploité, même pas 500 hectares. Il faut à un moment donné que l'État il prenne sa responsabilité, puisque actuellement, le problème dans ce barrage de Berakiet, c'est que l'eau reste juste à 200-300 mètres du barrage, là où il y a les clans qui sont favorables à certaines partis politiques ou qui ont des familles qui sont très influentes, et du fait de cette influence avec des représentants de l'État, ils osent vraiment dévier l'eau d'une manière vraiment désastreuse, on va dire, pour les communautés qui sont en aval.
Mais les luttes de clans politiques ne sont pas seules en cause pour expliquer l'immobilisme dans le sud malgache.
Il y a beaucoup de responsabilités à soulever là-dessus. Il n'y a pas la volonté politique réelle pour le développement du sud, à mon point de vue. Et ce qu'il y a aussi, que derrière, la communauté internationale, dans les bailleurs, ne pousse pas d'une manière effective à ce que cela change. Et il y a quand même des problèmes d'insécurité graves qui fait que parfois on se limite à des zones qui sont entre guillemets sécurisées pour envoyer les staffs et mettre en œuvre des projets de développement.
Les trafiquants de pierres précieuses et de minerais et les Dahal, des bandits lourdement armés qui sillonnent la zone pour voler les troupeaux de zébus, continuent en effet de terroriser en toute impunité. En attendant le changement profond nécessaire, il y a urgence. La région ne dispose pas de moyens financiers ou matériels pour lutter contre le kéré. Fiandraza, chef de la région Androuy.
Si on ne remédie pas cette situation actuelle, dans 3 ou 4 mois, la situation va encore s'empirer. Et plus que ce qui se passe actuellement, il y aura des morts, il y aura des cadavres partout.
Je lance une alerte. Que tout le monde tourne le regard vers l'Androuille. Qu'on fasse quelque chose.
Kéré, la faim qui ronge le sud malgache. Un grand reportage de Jeanne Richard. Réalisation Marc Minatel. Ouyaba, Oulifale, Ouyele, Mamidi Moule, Arriva Dia.
Jeanne Richard, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors Jeanne, à quel point la situation est grave dans le sud de Madagascar ? Est-ce qu'on peut parler réellement de famine ?
Eh bien non, on n'en est pas encore au stade de famine. D'après la définition des organisations internationales, on parle de famine lorsqu'il y a 2 morts par 10 000 habitants et par jour. À Madagascar, pour l'instant, la situation est qualifiée de difficulté alimentaire aggravée. Mais le nombre de victimes est difficile à évaluer actuellement. Un groupement d'ONG, de partenaires internationaux et d'organismes publics ont procédé récemment à une évaluation, mais personne ne s'avance sur des chiffres précis et fiables, car la zone est très étendue, très difficile d'accès. Depuis le début du mois de novembre, on a parlé de 5 morts, 100 morts. Lors de mon passage dans ces régions, moi j'ai entendu le chiffre de 16 morts de faim. Ceci dit, chaque année, l'Anous et l'Androuille traversent une période difficile. Entre novembre et mars, c'est la période de soudure, pendant laquelle les gens ont épuisé leur stock de la saison passée et n'ont pas encore récolté pour la saison en cours. Sauf que cette année, la ligne rouge a été dépassée, car ça fait 3 ans qu'il ne pleut pas assez. Il y aurait donc près de 200 000 personnes en situation de difficulté alimentaire aggravée sur 1 200 000 habitants au total. Et si on ne fait rien, cela peut se transformer effectivement en famine.
Alors justement, on entend le chef de région appeler à l'aide à la fin du reportage. Quels sont les besoins ? Véritablement.
Alors les distributions de vivres couvrent les besoins de 120 000 personnes actuellement. Il faut plus. Et le Programme alimentaire mondial estime qu'il lui manque 3 millions de dollars pour venir en aide aux populations. Ce qu'il faut d'abord, ce sont des vivres, maïs, riz, huile, légumes secs, mais aussi d'autres produits de première nécessité, savon, bougies, marmites. Car pour avoir un peu d'argent et s'acheter à manger, les gens ont vendu tous leurs biens. En plus de cette aide d'urgence, il faut aussi penser aux prochaines récoltes pour éviter que la faim ne s'installe. Les agriculteurs ont donc besoin de semences. En effet, cette saison, les paysans ont planté plusieurs fois en espérant que la pluie vienne. Mais à chaque fois, la sécheresse a empêché toute récolte. Aujourd'hui, on l'entend dans le reportage, ils n'ont plus de semences. Il faudrait donc en distribuer au retour des pluies à la saison prochaine, mais pas avant, car les gens mangeraient ces graines qui sont bien meilleures que des cactus. Enfin, il manque aussi des médicaments. Les centres de santé sont souvent perdus dans la brousse, il manque de tout. À Imung, le docteur disait par exemple qu'il n'avait plus d'aliments thérapeutiques. Ce sont des doses de farine enrichie de vitamines et de nutriments pour les enfants trop maigres.
Alors, à part cette urgence dont vous parlez, est-il possible de prévenir ces kérés en amont ? Puisque la sécheresse est là depuis 3 ans, les autorités ont dû se rendre compte que on se dirigeait vers une catastrophe finalement.
En effet, mais Madagascar sort tout juste d'une crise politique qui a duré 5 ans. L'économie du pays est à plat et les caisses de l'État sont vides. Le président actuel a été élu il y a 1 an et comme à chaque changement de régime, des projets de grande envergure se montent pour apporter l'eau dans le sud, mais pour l'instant pas de résultat. Il manque souvent les fonds nécessaires. Quant aux ONG, bien que dans le pays ce soit la zone où elles sont le plus présentes, elles ne peuvent que mener de petits projets du saupoudrage. Alors qu'avec le changement climatique, ce type de sécheresse et ces vents forts qui balaient la région vont devenir de plus en plus fréquents et de plus en plus extrêmes. En fait, le véritable problème, c'est le manque de volonté politique. Pour régler les différends entre les clans locaux qui bloquent les projets et pour régler les problèmes de trafic et d'insécurité qui freinent le développement de toute la zone sud de Madagascar.
Ce sera le mot de la fin. Un grand reportage à réécouter sur RFI.fr dans son intégralité. Jeanne Richard, merci beaucoup. Bonne journée. Littérature sans frontières.